Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Bonsoir à tous. Bonsoir. eTeachers numéro 85. Et puis avec Seb à côté de moi en tout cas. Salut Seb.
Salut Jeff. Oui.
Ça va? Super content ce soir parce qu'on reçoit un invité qui va se présenter dans un petit moment en tout cas. Donc une émission à deux, on va faire ça à deux, on va essayer de titiller un petit peu cet invité. Hein.
Pas trop.
Ça nous rappelle des souvenirs de, hein, de des Pyrénées, Seb. Non, qu'est-ce que t'en penses?
On est toujours taquin mais avec affection. Comme...
Voilà. Comme je disais en off, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé si on avait eu des retours en tout cas des émissions précédentes, donc je m'en excuse, je regarderai un petit peu plus en détail pour l'émission prochaine.
Ce qui surprendra nos fidèles abonnés.
Et oui, c'est ça. Une émission sur deux, je vérifie ça en tout cas. Et on va passer directement au sujet du jour. En tout cas, on reçoit Guillaume ce soir. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
On va te laisser te présenter déjà, parce que je crois que tu as quelques casquettes en tout cas à nous présenter.
Oui. Alors, moi je suis enseignant dans le premier degré, je suis spécialisé, je travaille en unilycécole depuis 7 ans, et avant j'étais en IME pendant 7 ans aussi. Voilà, donc à côté de ça, je suis pas mal intéressé par le numérique, je suis tombé dedans, et surtout dans un écosystème particulier, l'écosystème de Microsoft, depuis 2010, et je co-anime avec des copains le podcast Lifetile, et puis je vous en reparlerai sûrement un petit peu plus à côté, qui n'est pas forcément dédié à l'éducation du tout, c'est vraiment le côté nouvelle technologie. Et puis à côté, j'ai un blog plus scolaire, Bande d'école, sur lequel je mets des ressources, des astuces, trucs et astuces, des choses comme ça, à disposition pour les collègues ou autres personnes qui voudraient s'en saisir. Voilà, pour
les sensibles. Très bien. Ouais. Tu as parlé de plusieurs termes que je vais trop...
Il faut que je précise un truc pour être totalement honnête. Depuis 4 ans, je suis MIE expert, donc je suis prof certifié, entre guillemets, Microsoft. C'est peut-être bon à rappeler aussi, pour certains aspects.
Oui, on ne savait pas. Bon, là, il va falloir qu'on arrête l'émission. Alors.
Voilà, c'est ça. Bon, mais ciao.
T'employais beaucoup de termes comme Ulysse, IME, tu peux peut-être... j'embête souvent les invités là-dessus.
Oui, c'est vrai.
Les acronymes.
Ouais. Alors, Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, c'est ce qui remplace les CLIS, les classes locales pour l'inclusion scolaire. Grosso modo, moi, j'accueille 12 enfants qui sont porteurs d'une déficience intellectuelle, ce qu'on appelle les TFC, les troubles des fonctions cognitives. Et avec que j'ai la charge de les faire progresser, alors soit moi dans la classe, soit de les inclure dans la classe de collègues, sur des objectifs très particuliers, plus ou moins en fonction de leurs possibilités. Donc ça, c'est l'Ulysse, Ulysse École. Vous avez la même chose au collège et puis au lycée. Et les IME, ce sont...
Oui, pardon. Des élèves de quel âge, tu as
De 6 à 12 ans.
D'accord.
Moi, sur toute la période élémentaire. Et à côté de ça, donc avant, j'étais en IME, donc Institut Médico-Éducatif. Et là, je travaillais dans une SIP, une section d'initiation professionnelle, avec des enfants, des jeunes qui allaient de 14 à 22, 23 ans. Donc des enfants, des grands enfants pour certains. Mmh. Ouais. Et donc, on travaillait beaucoup en partenariat avec les éducateurs professionnels, menuiserie, couture, cuisine, espace vert. Et entretien des machines. Donc voilà, du scolaire vraiment dédié à la partie professionnelle et ensuite des activités plus traditionnelles de l'école.
Et d'accord. Voilà. Et c'est un choix. Tu as fait une formation particulière ça, pour enseigner en Ulysse ou
Oui, Oui, ben pour le milieu spécialisé, il faut d'abord que tu aies ton concours de prof des écoles et ensuite tu passes une spécialisation. Une spécialisation. Alors, à l'époque, ça s'appelait le KPSH. Me demande pas ce que ça veut dire KPSH, j'ai oublié. trop. Voilà. Grosso modo, c'est une spécialisation pour la déficience, les déficiences. Et maintenant, ça a changé, ça s'est réduit encore de moitié et ça s'appelle le KPI. Voilà.
D'accord. Et moi, c'est un domaine que je connais très peu, donc le LIS. Comment tu gères cette disparité un petit peu d'élèves là, entre 6-12 ans, tu me dis 12 élèves, tu es seul face à eux, c'est ça, tu n'as pas des...
Alors, j'ai une personne, une auxiliaire de vie scolaire qui est dans la classe et qui est pour la classe. Donc, qui peut très bien... je vais lui demander de préparer du matériel, de s'occuper d'un groupe d'enfants, d'accompagner un enfant en inclusion s'il y a besoin. Ça va vraiment dépendre des besoins que moi, j'évalue, enfin que j'estime. C'est mon boulot. Généralement, c'est plus quelqu'un... J'ai de la chance d'avoir une personne qui est une perle, donc qui va mener un groupe. Moi, je vais lui préparer l'activité. Puis avec un petit groupe d'enfants, elle va mener l'activité comme je lui ai demandé. Elle me permet de me faciliter le travail dans la classe. Généralement, je travaille avec trois groupes. Donc, un groupe que j'ai avec moi, un groupe que j'essaie de mettre en autonomie et un groupe qui travaille avec l'AVS. Sur des tâches différentes. Enfin, différentes ou pas forcément différentes. On peut très bien travailler en lecture sur le même livre, sauf qu'on va le faire, t'imagines, à des niveaux bien différents entre un enfant. Ouais. Alors, c'est pas forcément le plus jeune qui aura le plus petit niveau. Ça, paradoxalement, les orientations en ULIS encore sont, comment dire, parfois très porteuses d'interrogations. On se demande qui c'est qui a décidé tout ça. J'ai par exemple une enfant qui a des troubles psy énormes et qui me fait exploser la classe 5 à 6 fois par jour. Donc, il faut faire avec et puis il faut savoir improviser, savoir réagir. Alors, tu ne l'apprends pas forcément en formation. Moi, en formation, j'ai passé une super année de formation, mais je me suis posé plein de questions géniales. Je cherche toujours les réponses. Donc, ce n'est pas parce qu'on est spécialisé qu'on a plus de réponses. On a peut-être un regard qui est un peu plus indulgent. On va aller peut-être chercher d'autres objectifs que ne vont pas forcément chercher les collègues non spécialisés. Mais voilà, quoi. Après, on n'est pas des super enseignants. On a juste peut-être un regard un peu de biais. Et c'est peut-être ce qui permet des fois de faire autrement.
Parce qu'il y a quoi ? Il y a un programme, il y a des compétences à acquérir qui sont différentes du...
Ah, grand débat. Non, alors, théoriquement, tu dois travailler dans les programmes officiels. Sauf que tu n'as pas l'obligation de niveau. Un enfant d'âge CM2 doit travailler du CM2.
Ouais.
Sauf qu'on a eu une réforme, le passage de la CLIS à l'ULIS en 2015, qui est interprétée selon les inspections plus ou moins drastiquement, avec une obligation d'inclusion dans la classe d'âge, plus ou moins un an. Donc tu avais des enfants déficients, tu les enlevais de la classe parce qu'ils n'étaient pas capables, et là on te demande de les remettre. Alors pas forcément pour les mêmes objectifs, mais selon les gamins, ça peut être du notionnel, ça peut être... Alors, la socialisation, je ne dirais pas que c'est le bon terme, mais pour qu'ils l'apprennent à faire face aussi à des camarades d'à peu près son âge, parce qu'il y a des enfants qui vont partir en SECPA, en collège, donc c'est une filière pré-professionnelle, section d'enseignement général et professionnel adapté, si je ne dis pas de bêtises. C'est un milieu qui n'est pas toujours facile, donc il faut quand même que les enfants que j'envoie, moi... Alors, c'est vrai que nous, on a un dispositif... des fois un peu cocooning, tu vois, on est deux adultes, 12 élèves, donc on va pouvoir s'occuper assez gentiment des enfants, et il faut quand même qu'ils soient capables de répondre face, alors je dirais pas l'agressivité, mais la verve d'autres enfants à peu près de leur âge.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc il peut y avoir différents objectifs, il faut vraiment être clair par rapport aux objectifs et vis-à-vis des inclusions.
D'accord, on va revenir un petit peu sur le numérique. Est-ce que le numérique est présent justement dans ta classe et peut en tout cas aider différencié, puisque on a bien compris que tu avais des différences de niveau, d'âge, de...
Voilà, alors oui, bien sûr, tu te doutes que si je suis là ce soir, c'est bien qu'il y a quelque chose. oui, moi, le numérique, c'est un petit peu mon dada. J'utilise surtout des ordinateurs, parce qu'en classe, je dispose d'une machine mairie, j'ai 5 ordinateurs, une tablette, mais tu vois, sur tout ce pool de matériel, il y a juste une machine qui est mairie.
Tu n'as pas dit dans quel coin tu étais, au fait ?
Je suis dans l'ouest.
D'accord, ok.
Voilà, Poitou-Charentes.
Poitou-Charentes.
Et voilà, peu de dotation en matériel. J'ai un vidéoprojecteur dans la classe, youpi. J'ai pas l'ordinateur qui va avec, donc j'ai ma Surface Pro qui fait office. Les outils que j'utilise, donc surtout des ordinateurs, j'aimerais bien avoir une ou deux tablettes en permanence, parce que aussi j'ai mes enfants qui aiment bien utiliser ma tablette à la maison, donc elle fait pas tous les jours les trajets. Ils veulent pas toujours partager. Et donc j'utilise moi un bloc de classe, un petit WordPress qu'on va utiliser notamment autour de la Twiktée, autour du. Je peux mettre à mes élèves des poésies à apprendre que je vais dire. Ils vont pouvoir le travailler en réécoutant à la maison. Ils sont tous équipés, soit d'un smartphone, soit d'une tablette. Très peu, enfin, l'ordinateur, ils l'utilisent assez peu, finalement. Et ils vont assez facilement écouter une vidéo, aller revoir, aller juste écouter une musique, un truc comme ça. Donc, moi, sur mes feuilles de travail, je leur mets des petits QR codes et je leur ai appris à flasher le QR code. Et comme ça, ça leur lance directement le lecteur. Ils ne sont pas obligés d'aller chercher, taper une URL. Voilà. Donc j'ai ce bloc de classe qui me sert aussi à la Twiktée. Donc je mets les Twiktées. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de Twiktée.
Non, mais on en a parlé. Mais vas-y, explique un petit peu le concept.
Alors la Twiktée, c'est une dictée, finalement une dictée négociée entre plusieurs classes, entre trois classes par trinôme. Une classe, on se décide d'abord entre enseignants sur des difficultés que l'on veut travailler avec nos élèves. On élabore un texte, souvent dans un thème qui est décidé par la plomberie, donc les organisateurs de la Twiktée. Et texte qui est limité à 140 caractères. Il y a différents niveaux, Twiktée CP, Twiktée Cycle 2, Twiktée Cycle 3, C3+. Je ne sais pas s'ils l'ont gardé, le C3+, cette année, et le Cycle 4 pour le collège. On a un calendrier qu'on doit respecter à peu près pour s'organiser entre collègues. Les enfants vont faire une première dictée de manière individuelle. Cette dictée, ils vont la partager avec un ou plusieurs de leurs camarades, ils vont faire des groupes, ils vont négocier une dictée commune. Donc, entre eux, ils vont devoir justifier de pourquoi ils ont écrit de telle ou telle manière. Ça, ils se mettent d'accord sur une écriture commune, que eux vont numériser ou que moi, je vais numériser, ça dépend s'ils ont été performants, si on a le temps ou pas. Et on va envoyer tous ces travaux à une classe partenaire, qui va être notre classe miroir. Tout ça, ça se fait de manière... invisible pour le public, parce que vous entendez Twiktée, vous reconnaissez Twitter dedans. Mmh. Il va y avoir une étape qui va passer par Twitter, mais pas encore cette étape. La classe miroir va récupérer notre travail, et les élèves de la classe miroir vont élaborer des outils, c'est des petits outils grammaticaux qui vont être publiés sur Twitter, et qui vont permettre de corriger les erreurs qu'ont faites les élèves. Moi, je récupère les outils, je les mets en forme sur généralement sur une feuille ou sur deux feuilles, selon la quantité d'erreurs, et les enfants vont reprendre leurs travaux de groupe et vont corriger leurs erreurs grâce à cet outil. Les outils, donc l'avantage, c'est vraiment que vous avez une explication qui est très concise, Twitter 140 caractères, donc ça oblige à la concision et on utilise une balise à chaque fois qui va représenter une famille d'erreurs. Et vraiment, cette catégorisation est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que, enfin moi je vois ça chez mes élèves qui sont déficients, ceux qui utilisent la Twiktée depuis 2 ou 3 ans, quand on fait de la grammaire, ils ne vont pas me donner une règle, ils vont me donner la balise. Et pour eux, clairement, derrière la balise, il y a cette règle qui est là. Et clairement, au niveau de la capacité alors, à mémoriser, à élaborer, pour eux, ça va à l'essentiel. Ça leur évite de se perdre. Là, il manque un S, boum, ils disent, maître, ça, c'est accord GN. C'est clair, c'est garé pour eux. Problème de singulier, de pluriel, de masculin, de féminin, pouf, ça y est, c'est catégorisé. Et ils savent quand je leur dis, attention, accord GN. Ah, ils vont regarder les accords en genre et en nombre, et 9 fois sur 10, ça marche. Alors, pour les miens, ça demande un peu de temps. Je sais que les collègues qui s'y mettent, ça demande aussi un peu de temps, mais je trouve que c'est assez porteur. Alors, en même temps, nous, on reçoit les Twiktées de notre groupe et on doit élaborer les outils qu'on leur envoie sur Twitter.
D'accord, et les classes, un aller-retour,
enfin, oui, ça marche par trinôme. Mmh. Et les classes qui ont, enfin, les groupes qui ont réussi à faire une Twiktée sans aucune erreur ont le droit de publier directement sur Twitter leur Twiktée zéro faute. Voilà pour le principe essentiel.
On va en profiter pour faire un petit coucou au TADAF, hein, puisqu'on parle de Twiktée.
C'est vrai. On me l'avait expliqué. Et là, je trouve que l'explication est.
Non, là, c'est très clair.
Nickel, oui.
Merci. On se reconnaît sans problème dans ce que tu viens de dire. Bravo.
Bon, bah, écoute, tant mieux.
Tu as parlé d'un blog, donc un blog qui permet de quoi ? De communiquer avec les parents, de communiquer avec d'autres ou...
Alors, je l'ai mis en place quand je suis arrivé parce que, quand vous avez, quand vous gérez une Ulysse, vous avez souvent des enfants qui viennent de toute une circonscription ou d'une partie d'une circonscription. Donc, vous n'avez pas forcément la possibilité de les rencontrer le soir à la grille. Moi, par exemple, cette année, j'ai un enfant qui est du quartier.
D'accord.
D'accord. Tous les 11 autres viennent, certains viennent de 30 km à côté. Donc, le blog, ben, ce qui est pratique, c'est que ça peut permettre de partager des informations. Alors, depuis, j'utilise OneNote pour les informations, mais ça va surtout être un outil de présentation. Les travaux que font mes élèves, je vais pouvoir les partager sur le blog de classe. On s'inscrit à un festival de films d'animation en milieu scolaire que propose la ville, et nos vidéos, bon, alors, sont sur YouTube, Vimeo, mais aussi présentes sur le site de classe. Moi, ça me permet de dire aux élèves, par exemple, vous allez sur le site de la classe, pouf, ils connaissent l'adresse, ils vont taper l'adresse. Bon, je l'ai mise en raccourci, comme ça, quand ils lancent le navigateur, ça va directement. C'est un des multiples onglets qui s'ouvre automatiquement. Voilà, donc c'est une sorte de bibliothèque assez statique, moins dynamique que peut-être le OneNote, mais dans laquelle ils vont retrouver tout le travail qu'on peut faire, et tout le travail que je leur destine. Voilà. Et c'est aussi présentation des activités de la classe. À la base, j'étais parti en 2012-2013, j'avais participé à un MOOC et il y avait un projet à faire, donc j'étais parti sur l'idée de créer une timeline du travail des élèves pour voir leur progression sur tout le temps où je vais les garder, parce que certains élèves, je peux les garder jusqu'à 6 ans s'ils arrivent à l'âge de leurs 6 ans. Ouais. Donc ça peut être intéressant que l'élève se rende compte de ce qu'il a fait comme progrès. Bon, j'ai arrêté le système de travail sur la timeline parce que c'était hyper chronophage, assez dur à mettre en place. L'idée est intéressante, mais il faudrait que je trouve un moyen plus simple d'aller intégrer ces travaux sur une frise, finalement, que l'élève peut consulter.
Parce que là, c'est les élèves qui publient, là, ou c'est...
C'était les élèves qui publiaient, ouais, c'était ça l'idée.
Et, donc, et actuellement aussi?
Actuellement, j'ai carrément enlevé tout ça.
Mais actuellement, ton blog, il est alimenté par...
Par moi. Par moi ou par ce que font les élèves.
D'accord, ok. Non. Et il y a une question dans le chat, on nous demande quelle est la plus-value de la publication pour les élèves.
Alors, il y a un côté de fierté, et on est aussi sur la situation de communication qui est réelle, qui n'est pas biaisée, parce que si on écrit pour faire comme, si on écrivait à un tel ou à un tel, les élèves le savent, on fait comme si. Là, on écrit réellement à la classe. Je sais qu'en début de Twicté, à chaque Twicté, on va changer de classe partenaire. En début de Twicté, mes élèves adorent dire bonjour aux élèves de l'autre classe, leur demander ce qu'ils aiment faire comme sport, qu'est-ce qu'ils font, par exemple, en sport actuellement avec leur enseignant. Mes élèves aiment beaucoup poser ce genre de petites questions. Ce n'est pas des grands trucs, mais on est vraiment dans une situation de communication et les enfants vont écrire. Moi, je valide toujours les tweets. Soit c'est moi qui clique sur Twitter, soit c'est l'enfant qui clique, mais avec moi derrière. Jamais les enfants n'ont accès seuls à Twitter, au Twitter de la classe. C'est toujours soit avec moi, soit la VS, mais c'est quasiment toujours moi. Et on est vraiment dans cette situation de communication où on va vraiment échanger avec quelqu'un parce qu'on va attendre une réponse. Alors, ils sont hyper frustrés quand ils n'ont pas de réponse. Ça arrive parfois. Mais je comprends, bon, des classes qui sont dans le rush aussi n'ont pas forcément le temps de faire toute cette communication. Mais ils aiment beaucoup échanger. Et on reviendra peut-être sur un autre dispositif que j'utilise de temps en temps. Et on est aussi dans une situation, réelle situation de communication avec d'autres classes à l'étranger.
D'accord, je reviens sur le chat. Il y a un autre Guillaume qui n'arrête pas de poser des questions. Qui nous dit, peut-on alors parler de production écrite en interaction?
Production écrite en interaction. Interaction entre pairs, oui. Parce qu'ils peuvent écrire à plusieurs. Interaction avec l'enseignant, oui. Et après, ça sera un échange.
Ouais.
Oui, ça sera, de toute façon, ça serait une production d'écrit. Oui.
D'accord. Alors, j'aimerais bien être une petite bête, aller dans ta classe. Décris-nous un petit peu ta classe. Moi, dans ton espace classe, est-ce que tu as, je ne sais pas, est-ce que tu fonctionnes en îlot, en atelier, tu vois, c'est des choses...
Alors, t'imagines d'abord une classe pas très grande. J'ai la dernière salle qui restait dans l'école.
Aïe.
T'imagines que la peinture n'a pas été refaite depuis 15-20 ans.
Pas grave, ça la peinture.
Les tableaux ont été déplacés, il y a des trous dans les murs qui n'ont jamais été rebouchés. Voilà. Ouais, tu vois, donc le truc qui n'est pas très beau, un vieux carrelage avec des petits carreaux assez moches. Bon, j'ai quand même un vidéoprojecteur, donc ça, youpi. Voilà. Sinon, au niveau organisation, j'ai deux tableaux, un tableau blanc, un tableau vert qui est reparti en fin de classe. Je travaille avec trois grandes tables. J'ai principalement trois grandes tables. Je vous ai dit que j'avais trois groupes de travail. J'ai quatre enfants par groupe, ça tombe à peu près bien. Bon, j'en ai un qui est à la limite, qui devrait changer de groupe peut-être pendant l'année. Mais ça me permet de travailler très facilement en situation de groupe.
Et c'est souvent, des groupes de niveau, là?
Ou des groupes de besoin, ouais. Je dirais plus groupe de besoin que groupe de niveau. D'accord. Mais on est à peu près sur la même notion dans la pratique. Voilà, dans le fond de classe, j'ai 4 ordinateurs fixes, la place pour un cinquième que je ramène, et un emplacement pour une, bon, pour brancher la tablette, se mettre par là. J'ai un petit coin, alors j'ai ce que j'appelle le tapis, c'est un bout de linoléum que j'ai encore sauvegardé de la classe, qui n'est pas encore trop abîmé, qui est notre coin regroupement, qui nous sert de temps en temps quand on fait des activités de manière un peu plus posée. Mais voilà. Après, j'ai la table de l'AVS, j'ai mon bureau dans un coin, quelques armoires pour ranger le matériel. Et j'ai malheureusement pas de coin bibliothèque. J'aurais aimé avoir un petit coin avec quelques coussins pour que les enfants qui ont fini puissent aller s'asseoir de manière assez confortable. Alors là, bon, bah, ils prennent les livres dans le casier qu'il y a et puis ils vont s'asseoir sur ce tapis, là, sur ce bout de linoléum qui est le moins inconfortable. D'accord. Mais au niveau organisation, tu vois, petite classe et j'ai pas la possibilité d'avoir un peu plus grand ou mieux organisé.
Non, mais je suis toujours preneur dans le premier degré, et puis surtout avec des élèves comme ça, où il y a vraiment des grandes différences entre les élèves. Seb, vas-y.
Oui, je voulais bien qu'on revienne avec Guillaume sur l'utilisation qu'il a de OneNote, qui est un de mes dadas, on va dire.
Ouais. Alors, OneNote, qu'est-ce que c'est déjà ?
Alors, OneNote, c'est le classeur numérique de Microsoft. C'est mon outil préféré pour la classe, je pense. Bon, il y a Word aussi pour la mise en page des documents avec PowerPoint, mais OneNote va peut-être quand même passer devant. OneNote, moi, c'est l'outil qui me sert de tableau blanc les trois quarts du temps. Généralement, quand j'ai besoin du tableau, je vais allumer mon vidéoprojecteur. Alors, j'ai une Surface Pro, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'ordinateur au format tablette de Microsoft avec un stylet. Et cette Surface Pro, j'ai un petit transmetteur sans fil, un wireless display adapter qui est branché au cul de mon vidéoprojecteur, qui me permet d'avoir une connexion HDMI sans fil. Donc, je peux me déplacer n'importe où dans la classe. Ma Surface est toujours connectée à mon vidéoprojecteur. Donc, ça, c'est super pratique. Qui dit stylet dit écrire. D'accord ? Donc, avec mon OneNote, je vais écrire sur ma Surface et ça va être mon tableau. Quel est l'avantage de ça ? C'est que dans OneNote, j'enregistre tout. Je crée une page par jour, par activité. Comme dans un classeur, je vous parlais de classeur numérique, comme dans un classeur, vous avez des intercalaires. Dans OneNote, ça s'appelle des sections. Dans ces sections, vous avez dans votre classeur, vous avez des feuilles, et bien là, vous avez des pages numériques dans OneNote, et vous en mettez autant que vous voulez. D'accord ? Vous pouvez les empiler, en avoir qui s'organisent avec une page et plusieurs sous-pages. C'est génial, par exemple, j'ai mes programmes officiels comme ça. J'ai un onglet, j'ai une section programme officiel, dedans j'ai les maths, j'ai le français, tout ça, et par sous-section, dessous, c'est rangé, tu peux les déplier, les replier si tu as besoin de voir une autre section, très pratique. Donc, dans mon OneNote de classe, j'ai une partie qui est accessible aux élèves en lecture seule, qui est le tableau, tout ce qu'on a fait ensemble. On travaille, on fait des hypothèses en sciences. Bon, ben, je vais faire le schéma sur ma Surface. Certains élèves assez sages et posés ont le droit de toucher à ma Surface, mais vu que c'est mon matériel perso et que ça coûte un peu cher, je choisis les élèves. Oui, un petit peu cher. Je ne sais pas si maintenant je rachèterai le même outil. Bon, bref. Donc, cette partie, c'est la partie presque publique, accessible à tout le monde en lecture et uniquement aux enseignants en écriture. Et donc là, c'est la mémoire de la classe. Les parents ont les codes d'accès et peuvent se connecter avec le compte de leur enfant sur le OneNote de classe. Et s'ils veulent, ils pourraient suivre en temps réel la journée de classe. Donc, si quelqu'un me dit « Ouais, mais je ne sais pas ce que vous avez fait », je lui dis « Vous reprenez le OneNote, vous cherchez la bonne date, vous avez tout. » Comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai une autre partie qui est la partie bac à sable. C'est une partie où tout le monde a accès en lecture, en écriture. Ça va nous servir quand on a des projets. Par exemple, l'an dernier, on avait un projet le projet de film d'animation. On a eu le moment où on devait choisir les fonds pour faire de l'incrustation de personnages. Et là, les élèves étaient sur leur moteur de recherche. Ils allaient récupérer des fonds. Ils les collaient dans OneNote. Ils mettaient les liens aussi pour qu'on puisse retourner sur les pages sans difficulté. Et ils mettaient ça. Donc, tout le monde peut interagir. C'est pas forcément sécure au niveau conservation des données. Donc, ça, c'est vraiment par projet. Puis moi, je les fasse au fur et à mesure pour faire de la place. Et dans mon OneNote, j'ai une partie aussi qui est le classeur spécifique à chaque enfant. Ça me permet de pouvoir distribuer du travail en numérique à chaque enfant, d'avoir l'enfant qui fait son travail. Par exemple, je fais des dictées parfois sur l'ordinateur et les enfants vont taper leur dictée sur l'ordinateur. Ils sont sur le site de la classe, ils écoutent. et ils tapent sur l'ordinateur, sur OneNote, leur dictée. C'est une manière de faire plaisir à certains qui n'ont pas trop envie d'écrire, mais qui veulent quand même bien comme ça faire la dictée. Voilà, tu joues sur le biais de l'ordinateur. Et ça, par contre, vous pouvez pas forcément l'avoir avec un OneNote public. Il faut un OneNote éducation. Ça, c'est le OneNote qui est spécifique au compte éducation. Voilà, c'est gratuit aussi, mais il faut s'enregistrer avec une adresse académique pour avoir toutes ces fonctionnalités. Et donc, OneNote, voilà, c'est ça. C'est ce super classeur dans lequel vous pouvez ranger assez facilement toutes vos données. Mais un truc qui est bien, c'est que vous pouvez mettre dedans tous les documents quasiment. Moi, des documents que j'utilise en classe, je ne connais pas de documents que vous ne pouvez pas imprimer ou inclure directement dans votre OneNote. Vous avez une vidéo qui vous plaît, vous la reprenez de votre site de vidéo, vous copiez l'URL tout simplement dans votre page OneNote, la vidéo va apparaître. Quel avantage ? Mais les enfants n'ont pas forcément besoin d'aller sur YouTube, sur Vimeo, sur autre chose, voir des publicités. Il y a uniquement la vidéo dans le OneNote. Très pratique. Vous avez un PDF que vous voulez partager, vous le cliquez déposer dans votre page OneNote. OneNote va vous proposer soit de l'imprimer, donc ça paraît affiché, soit juste de l'inclure. Ça va le copier à l'intérieur de OneNote. Avec un double clic, ça vous l'ouvre à côté. C'est pratique aussi. Ça marche aussi pour vos fichiers Word, vos fichiers Excel, Publisher aussi. Vous pouvez avec OneNote enregistrer directement de l'audio de la vidéo, si vous avez un micro ou une caméra. Voilà, ça ne va pas vous faire du montage, ça ne va pas faire des trucs comme ça, mais vous pouvez tout de suite capturer du son de l'image. Dans le OneNote éducation, alors ça, c'était une fonctionnalité qu'on avait il y a 3 ans, qui était spécifique au OneNote éducation, mais qui est maintenant, je crois, dans tous les outils Office en ligne, et même en dur, je crois, maintenant. C'est la possibilité de le faire lire par le logiciel un texte. Alors, vous imaginez, moi, qu'il y ait des enfants qui sont déficients, qui ne savent pas forcément lire, ou qui sont des petits déchiffreurs qui mettent encore beaucoup de temps et d'énergie dans le décodage, et bien finalement, quand je veux leur faire travailler la compréhension, moi, j'envoie mon document sur OneNote, et eux, ils vont à l'ordinateur, hop, ils mettent le casque sur les oreilles, et ils appuient sur lecture immersive. Ça leur ouvre le panneau. Alors, dans la version anglaise, vous avez la possibilité de marquer les verbes, les noms, les sujets, plein de choses, de faire la grammaire de phrase directement. Enfin, c'est le logiciel qui va vous faire la grammaire de phrase. Ça peut être assez pratique. Dans la version française, ça marche assez moyen. Il peut vous découper en syllabes aussi, mais pareil, en version française, c'est pas toujours parfait. Mais il va vous lire surtout. Il va vous lire votre texte. Et l'enfant n'a juste qu'à écouter. Il clique sur play, il écoute. Et après, il revient, ça ferme la page. Il va, par exemple, taper ou dicter sa réponse. Et comme ça, il fait son travail. Il fait d'une autre manière, mais il fait le même travail que les copains.
Là, je te coupe deux minutes parce que justement, le lecteur immersif, c'est ce dont tu parles, hein, on est bien d'accord.
Oui. Voilà. Oui, oui.
Moi, cette année, je l'ai réutilisé parce que l'année dernière, j'ai essayé, mais j'avais un petit souci d'ordinateur, etc. Et là, depuis qu'il est intégré, c'est vrai que c'est un bonheur, mais vraiment un bonheur. Là, est-ce que vous ayez une solution, même le. On va dire, on parle même de OneNote, Toobet, Public, etc.
Tous.
Voilà, sans installation, sans rien. Moi, j'ai un gamin qui est dans ce cas-là, qui a vraiment un blocage sur le décodage du texte, mais qui comprend si on va partir du moment où ça lui est lu. Et c'est magique. C'est magique. C'est bien fichu, c'est propre, c'est net.
C'est voilà. Très simple. C'est voilà. Très épuré. Le texte est mis en gros. Très espacé, chaque ligne est vraiment très espacée, les mots sont espacés, donc pour travailler la segmentation, c'est clair. Et en plus, quand ça vous lit le texte, ça surligne le mot qui est lu. C'est un peu le système du karaoké, mais c'est assez pratique. Ouais.
Maintenant, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu dommage qu'ils n'aient pas simplifié? Parce que là, j'en connais, hein, même de ma circo, qui vont se dire, mais oh punaise, c'est bon, demain, je me prends un compte OneNote éducation parce que ça a l'air trop bien, c'est classeur partagé. C'est bac à sable, etc. Est-ce que tu ne trouves pas ça un peu dommage que ce soit encore si compliqué de le mettre en place?
Ah. Malheureusement, quand tu connais le côté un peu Office, Microsoft pour les pros, et encore, tu n'as pas regardé Azure. Quand tu as regardé les panneaux de configuration de chez Azure qui sont derrière tout ça, parce que quand tu es administrateur, tu peux aller voir tout ce qu'il y a chez Azure, mais tu t'arraches les cheveux, tu t'arraches réellement les cheveux si tu n'es pas dans le métier. C'est vraiment un boulot de savoir configurer les services de chez Microsoft. Oui, c'est clairement dommage qu'il n'y ait pas quelque chose d'hyper simple, que la partie éducation ne soit pas hyper simple. Tu vérifies que tu es enseignant, tu as droit à ton truc, et puis voilà, il faudrait que ce soit fait en trois clics. Quoi.
Donc, deux minutes, tu vas voir. Parce que justement, c'est ce que je me suis dit, c'est j'ai essayé, et je ne suis, comme j'aime à le répéter, moi je ne suis pas pro en informatique, je bricole. Mais vraiment, je bricole de bas niveau parfois. Et là, j'ai essayé, je me suis cassé les dents, je suis arrivé à un résultat totalement aberrant dans ce que ça devrait être.
Oui, d'après ce que tu m'as dit, oui.
Voilà, du style, pour expliquer, parce qu'on en parlait un peu en off, je suis arrivé, normalement, on a un dossier pour chaque enfant, je suis arrivé à avoir un dossier pour un des enfants de ma classe qui fonctionnait, tous les autres étaient bloqués. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été sur les forums, j'ai demandé de l'aide, ça n'a jamais fonctionné.
Tu as regardé si tu avais attribué une licence élève à tous tes enfants ?
J'y ai passé des heures et je me suis bien cassé les dents. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me débrouiller. Et je continue à utiliser OneNote. C'est vraiment un truc que j'adore. J'utilise deux carnets différents pour pouvoir avoir des services différents. Mais je me suis dit, mais il se passe complètement à côté.
Oui, bien sûr.
Public enseignant à qui tu ne peux pas aller voir nos collègues et leur dire, ah, bon, alors écoute, il y a un truc qui est super. C'est génial. Ça va te prendre 4 heures à installer. Peut-être que ça fonctionnera pas.
T'aimes pas l'informatique, ça va te prendre 12 heures.
Ouais. Moi, quand je parle avec certains de mes collègues, je leur dis, mais super, ce truc, cet outil-là, mais prends-le, il est super, vas-y, utilise-le. Et certains, ils me disent, ouais, mais ça a l'air un peu…
Non. Tu me le fais, tu me le configures ? C'est ça qu'ils vont me dire.
Un peu, voilà, oui. Ou alors tu m'aides. Mais alors là, je ne peux même pas les aider. Je suis arrivé, mais voilà.
Donc, est-ce que je comprends, moi qui suis un peu novice là-dedans, c'est qu'un compte d'éducation, c'est par enseignant qu'il faut créer un compte d'éducation ?
Non.
On ne peut pas créer un compte d'éducation pour une école ?
Pour une école.
Ah, voilà. Oui. D'accord, c'est pour ça que je ne comprenais pas là.
Alors après, moi, si tu vois, par exemple, dans mon cas, vu qu'on est trois dans l'école, forcément, ça retombe vite sur moi. Voilà,
tu as forcément le référent informatique de l'école, ça.
Voilà, mais
donc, de toute façon,
il n'y arrive pas.
Les autres ne vont pas y arriver non plus.
Je vais encore vous embêter parce que pour créer des comptes élèves, il faut forcément un compte éducation. On est d'accord. Voilà.
Oui.
C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un compte éducation.
C'est ça. Et après, tu peux très bien, moi je sais, j'ai des collègues qui utilisent le OneNote en version classique. Le OneNote, oui, voilà. Mais qui l'utilisent depuis plusieurs années, justement parce que les parents faisaient des remarques, oui, mais vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Et si, justement, voilà, il y a OneNote, vous avez tout dedans, vous n'êtes pas content, c'est dedans. Vous me dites qu'on ne l'a pas fait, si on l'a fait, voilà, c'était tel jour à telle heure, vous avez tout.
D'accord, il n'y a pas de compte élève, quoi. Voilà,
c'est ça. Il n'y a pas de compte élève. Mais là, tu peux partager ton OneNote de manière publique aussi.
Publique,
voilà.
Après, tu peux bloquer des pages avec un mot de passe.
Tu peux aussi bloquer des pages avec un mot de passe.
Tu bloques des pages avec un mot de passe en rendant ton truc public, techniquement, chaque gamin peut accéder à son espace sans aller déborder sur le fil des autres.
Alors, en ce moment, je fais un peu l'avocat du diable là-dessus, mais en ce moment, on parle beaucoup de données avec le RGPD, etc. Quand on parle des comptes publics et des comptes éducation, les comptes éducation, normalement, ils sont RGPD
compliant.
OK, mais oui, j'ai cherché le mot, voilà. Et les comptes publics, on est limite, c'est ça, hein, normalement.
Tout dépend ce que tu mets dedans. Tout dépend ce que tu mets dedans, parce que si tu mets que du travail scolaire sans aucun nom...
Si c'est du travail scolaire d'élèves, on est dans de la donnée là.
Je sais pas, on va prendre un exercice sur la conjugaison.
C'est de la donnée à caractère personnel, ça.
Ouais, tu sais, tu peux pas la rattacher à quelqu'un.
Si, normalement. On est très limite là-dessus, hein, sur la législation. Hein.
Mais écoute, je sais que le OneNote Éducation fait partie de l'offre Office 365 Éducation et ils sont validés RGPD.
Oui, ça j'en doute pas.
Les données sont hébergées en Europe. Je suis pas sûr qu'on puisse être hébergé en France. Moi, je crois que j'étais hébergé.
Il y a pas de toute façon, le RGPD ne spécifie pas du tout l'hébergement en France.
Non. Mais Microsoft a ouvert deux data centers en France, donc tu pourrais dire ça y est, ils vont migrer toutes les données françaises en France. Ça évitera de repartir. Moi, je crois que je suis aux Pays-Bas.
D'accord.
Pourquoi pas ?
Écoute,
c'est pas grave. Mais je suis en Europe. C'est ce qu'il faut.
Très bien. Alors, pourquoi Microsoft ? Parce que là, si on vous écoute, c'est un monde idéal. Tout fonctionne bien, à part la création de comptes.
Nous, dans le second degré, on a souvent des ENT qui sont fournis souvent par nos collectivités. Est-ce que ça ne fait pas un peu concurrence à ces ENT ? Ou peut-être que vous avez ça dans le premier degré aussi, non ?
Non.
Vous n'avez pas ça ?
Je sais qu'il y a certaines académies qui poussent des ENT dans le premier degré. Moi, dans la mienne, il n'y a rien. De toute façon, au niveau informatique, il n'y a rien. Tu te démerdes. Tu as les programmes qui te disent qu'il faut faire du numérique, il faut utiliser le numérique, mais vous n'avez pas de numérique, donc faites-le comme vous voulez, comme vous pouvez. Donc, il y a un moment, on te dit, tu prends gauche, quoi. Enfin, tu fais comme tu peux. D'accord. Moi, j'ai pris l'outil que je connaissais. Je suis rentré à mi-expert en 2015, je crois. Et peu de temps après, j'ai eu droit à une formation à Issy Limoulineau chez Microsoft, où ils nous ont présenté le OneNote Education, Office 365 pour l'éducation, avec les versions gratuites et les versions payantes. Et ben, 2 jours après, à la maison, je crée mon compte pour l'école et j'ai activé mon compte éducation. Donc, je suis parti comme ça. Ça devait être en octobre 2015, quelque chose comme ça. Parce qu'on m'a montré des fonctionnalités qui me plaisaient. Après, j'aurais pu aller chez d'autres concurrents, mais mon histoire par rapport au monde de l'informatique fait que j'ai regardé chez Microsoft en premier et que je suis allé chez eux. Voilà, après... Il y en a d'autres qui ont d'autres solutions. Mais en 2015, je crois qu'il n'y avait que Microsoft qui avait vraiment une vraie offre éducation.
Peut-être, ouais.
Je pense que Google a ça depuis pas très longtemps. Je crois que Classroom de chez Google doit dater de fin 2016, début 2017.
Classroom est récent. Il y avait déjà la partie pro qu'on pouvait utiliser en éducation. Ouais.
Mais là, c'était vraiment déjà spécifique éducation, ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je sais qu'il y a beaucoup d'académies qui ferment un peu la porte à ces géants du web, comme Microsoft et Google, tu l'as dit. Certaines académies ouvrent, d'autres académies ferment. On ne sait pas trop sur quel pied danser là-dessus. Il n'y a pas de...
Et non.
Là-haut, on ne nous a pas dit. Quoi, voilà.
C'est ça. En haut, on ne nous a pas dit. En haut, alors, il y a eu des accords qui ont été signés avec Microsoft et le ministère de l'Éducation nationale. Quand tu dis les accords, il faut arrêter. Enfin, il y a eu des polémiques. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi faire des polémiques. Bon, voilà. Mais au final, de toute façon, à un moment, les données, tu es obligé d'utiliser... Enfin, il y a des choses, si tu veux les faire, il faut utiliser un service. J'ai pas forcément plus confiance dans certains hébergeurs que chez Microsoft ou d'autres concurrents. Je sais que Microsoft, j'ai mes données chez eux de manière personnelle depuis plusieurs années. J'ai jamais eu de soucis. Bon, écoute, je préfère mettre mes billes là, moi, parce que j'estime que c'est un partenaire sérieux dans le travail. Après, je sais que c'est un géant du net qui est là. C'est pas des philanthropes. Ils sont là pour de l'argent. Oui, il y a des risques. Oui, on incite les enfants peut-être à utiliser leurs produits. Après, il faut aussi présenter les autres produits pour qu'ils aient la connaissance du panel de produits qui existent. Oui, mais moi, je suis enseignant, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas développeur, je ne suis pas ceci, pas cela. Je suis là pour faire un travail pédagogique avec les enfants. Donc, il faut que l'outil que j'utilise me fasse gagner du temps pour faire le travail avec les enfants. Tant que le ministère ou l'académie ne me propose pas un outil qui me permet d'être efficace, rapide avec les enfants, je vais utiliser celui que moi, j'estime, me permettre de gagner du temps. Voilà.
Alors, rapide et
sinon, s'il y a un recteur qui décide de me donner tel outil, le recteur il va venir faire le boulot à ma place si moi, j'estime que ce n'est pas efficace.
Après, non, j'allais venir justement sur ce discours qu'on entend souvent en disant il faut que les élèves voient autre chose que
oui, mais bien sûr,
faire
bien
Windows,
sûr.
Etc. Donc,
voilà. Mais si tu veux, moi je suis dans une municipalité où, alors ça vient de changer, c'est passé de la mairie à la communauté d'agglomération. Le gars qui s'en occupait était un intégriste de Ubuntu. Moi, quand je suis arrivé dans le secteur en 2012, quand j'ai parlé avec ce gars, je l'ai rencontré par hasard dans la salle des maîtres. Et je lui dis, les ordinateurs sont sous Ubuntu, il n'y aurait pas moyen d'y avoir Windows et puis la suite Office de chez Microsoft. J'ai dit ça et le mec ne m'a plus jamais parlé. Je me suis fait couper Internet de ma classe.
D'accord, donc il n'y a même pas lieu de discuter, quoi.
Non, 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 le mec, c'était, quand je te dis un intégriste de Ubuntu, c'était ça. Bon, j'ai appris à mes élèves déficients comment pirater la connexion de l'école en 2 minutes après. Moi, je ne savais pas le faire. Ça m'a pris 10 minutes sur Internet pour trouver comment le faire et puis 2 minutes pour montrer à mes élèves. Bon, et c'est stupide d'en arriver à cette situation-là. Non, là, oui, là, c'est bien d'avoir...
Là, on parle d'extrême, mais...
Non, mais je l'ai vécu. Le problème, c'est que tu vois, c'est pas juste une histoire. C'est, je l'ai vécu, quoi. Et on est encore avec des machines en Ubuntu sur l'école. Donc, des machines qui ne servent pas parce que les collègues n'ont aucune formation. Le service informatique ne venait jamais s'en occuper. Et voilà. Moi, j'ai passé 2 ans sur Debian. Donc, Debian, Ubuntu, c'est quand même des systèmes qui sont très poches. Ubuntu est un fork de Debian. Donc, je me dépatouille un peu. Bon, après, j'ai un peu zappé depuis le temps. Mais voilà, quoi. Moi, faire la maintenance des machines sous Ubuntu, je ne suis pas là pour ça non plus, quoi.
Ah non, c'est pas ton boulot, ouais. Tout à fait.
Mais pourtant, je le fais.
Tout à fait. Et justement, ton école, est-ce que a adopté un petit peu ta façon de travailler, ta hiérarchie aussi?
Alors, ma hiérarchie, c'est compliqué. On vient de changer d'IUN. La précédente IUN était une ancienne conseillère pédagogique TIS. Donc forcément, elle était branchée sur le numérique. Et puis, je pense qu'elle voyait d'un assez bon œil que j'ai des relations avec Microsoft parce que ça pouvait peut-être faire un peu de pub dans le secteur. Voilà, bon, très bien. Le nouvel IUN est beaucoup plus froid par rapport aux relations avec les géants du net. Donnant comme raison que c'est une entreprise privée, ce qui est vrai, mais je pense que toutes les entreprises avec qui on peut travailler seront des entreprises privées.
Bien sûr, les ENT.
Donc, à un moment, il faut faire un choix, il faut faire un choix éclairé. Bon, ça se défend. Je comprends qu'ils veuillent prendre du temps pour vérifier que tout soit fait dans les règles. Bon, voilà. J'ai manqué une participation à Educatech qui aurait dû être demain. J'étais invité par Microsoft pour participer à une conférence sur l'accessibilité et le handicap. C'est bête, mais c'est un petit peu mon dada. Donc, j'ai pas pu y être à cause de ça, mais tant pis, il y a peut-être une année prochaine. Et voilà. Et puis, j'ai oublié la question de départ, pardon, je digresse. Et... Tu sais plus non plus.
Oui, ton école, oui, ton école.
Ah, mon école, alors je mets petit à petit mes collègues là-dessus, mais si tu veux, en équipé de machines qui doivent avoir en moyenne une douzaine d'années d'ancienneté. Ouais. Donc, imagine des trucs hyper poussifs. Voilà, moi, j'ai récupéré des machines, j'utilise dans ma classe mes vieilles machines, des parents m'ont donné des machines que j'ai remises en état. Généralement, j'en prenais 2 ou 3 pour en faire une seule et pour avoir des outils à peu près efficaces pour les élèves. Mais les collègues ont des machines, mais c'est une misère. Ils nous ont installé des vidéoprojecteurs dans l'école. Alors, en connectique HDMI, avec des vieux machins qui ont 10-12 ans, et
oui,
avec des connectiques VGA. On a mis, sans déconner, 7 mois pour avoir les adaptateurs VGA vers HDMI. On a mis 7 mois quand tu sais que sur Amazon, c'est un truc qui coûte 5 à 7 euros.
Et encore, ne te plains pas, ils auraient pu se tromper de sens.
Ouais, t'es dans la bidouille, quoi. T'es vraiment dans le.
Ouais, tu fais avec le système D, et puis on te dit qu'il ne faut pas le faire. Et après, on te dit qu'il ne faut pas le faire. Quand tu as des conseils d'école où tu dis, voilà, ça fait 7 ans que je suis sur l'école, ça fait 7 ans qu'on me demande les mêmes choses. Alors là, on nous a dit, ouais, au budget 2018, vous allez avoir 12 tablettes. D'accord. Mais les tablettes, ça va être des tablettes Android où on va avoir mis les applications pour vous. On a décidé pour vous ce qui allait bien.
Ouais. Ah oui, il y a quelques municipalités, quelques collectivités qui fonctionnent comme ça. Ouais.
Et tu dis, mais vous savez ce qu'il y a? Ah ouais, non, mais c'est votre conseillère pédin, c'est la dame qui s'occupe du numérique. Et de toute façon, on vous l'a demandé. Sans... Ah non, on nous a rien demandé, on ne l'a pas vu. Ça fait 2 ans qu'elle n'est pas venue sur l'école.
Voilà. Ouais, y a quelques collectivités qui sont frileux comme ça, justement, à bloquer, à fermer, tout à fait.
Non, mais je comprends que pour la gestion, ça puisse être beaucoup plus pratique. Hein, mais
Oui, c'est de la gestion à distance, de plus en plus.
Enfin, qu'on ne me dise pas qu'on va décider pour moi, quoi. Je reprends l'exemple du menuisier. S'il a besoin d'une certaine scie pour couper le bois d'une certaine manière, tu ne vas pas lui dire non, tu vas prendre telle autre scie. Il va prendre l'outil qui lui va bien. Non, mais moi, c'est le genre de truc qui m'agace qu'on décide pour moi ce dont je vais avoir besoin. Et je pense que c'est tout seul.
Ouais, et puis c'est j'ai l'impression que tous les établissements sont commandes, même au lycée maintenant, hein, je vois avec les serveurs tout à distance, on peut rien faire sur place, rien installer, tu vois, donc on est un peu dans la même guerre, galère là-dessus.
Ah, oui.
Dès qu'il y a un problème, on appelle au téléphone, voilà comment ça se passe.
Ouais, mais donc voilà. Tu vas mettre un temps énorme pour résoudre
ton
problème.
Tout à fait.
Dis-moi, Guillaume, vu que tu es à connaissance du système Microsoft, est-ce que tu serais au courant de quelques sympathiques nouveautés qui nous préparent du côté de l'éducation ou est-ce qu'ils sombrent dans l'oubli?
Alors, l'éducation suit son petit bonhomme de chemin. Tu as toute la suite Office Éducation qui existe toujours. Alors, il y a un outil qui est sorti qui pourrait être pas mal collège-lycée. Moi, j'ai voulu l'utiliser l'an dernier avec mes élèves, mais c'est un petit peu compliqué pour eux. C'est Microsoft Teams. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nous, on l'utilise dans le cadre de Lifestyle. Maintenant, pour faire tous les enregistrements, on passe par Teams. Super pratique. Mais Teams, c'est un outil de communication à la base. C'était développé pour les entreprises ou les associations pour communiquer entre équipes, pour vraiment mener des projets d'équipe. Et là, ils l'ont intégré au monde de l'éducation depuis 18-24 mois, quelque chose comme ça. Et par contre, ce qui est bien dans le monde de l'éducation, vous me direz, le côté communication, bon, ça peut être pas mal pour les collèges et les lycées parce que tu vas pouvoir travailler par classe et par discipline. Ça, c'est... Il y a des collègues qui l'utilisent et c'est vachement pratique. Mais ce qui est bien, c'est que dans ton groupe, tu vas pouvoir intégrer des outils. Par exemple, tu vas pouvoir inclure OneNote. Ton OneNote va apparaître directement dans ton Teams. Tu vas pouvoir inclure tes fichiers Word, tes fichiers Excel. Et l'enfant n'a pas besoin d'aller dans Word, dans OneNote. Il va tout simplement aller dans Teams et il va avoir des onglets avec tout. Tu peux rajouter des services étrangers à Microsoft qui sont partenaires de Teams et tu vas pouvoir avoir des outils de carte mentale, enfin plein de trucs différents et directement dans ton Teams. Donc l'enfant, il se connecte dans Teams, il reste dans Teams, il peut communiquer avec les gens de l'établissement ou de la classe uniquement selon comment tu le configures et c'est sécurisé et il a tout dedans d'accessible. Je trouve ça super pratique. Au niveau interface, c'est bien pour les pros. Je trouve que ce n'est pas adapté aux enfants. C'est dommage. Il manque un côté un peu fun, un peu frais et puis simplifié parce qu'on a vraiment la même interface qui est un peu raide et pour les comptes pro et pour les comptes éducation. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment le dernier outil à ma connaissance qu'à Microsoft.
Il est aligné un peu des Slack, un truc comme ça, c'est ça hein.
Ouais, mais alors Slack est vraiment très, très léger, très fun, très... Très pratique aussi, très simple d'utilisation. Teams est un peu plus difficile. Ouais. Pardon ?
Je n'utiliserais peut-être pas que des élèves Slack, non ?
Non, non, mais pareil. Non,
en équipe, pour l'équipe.
Ouais, en équipe, c'est top.
En équipe, c'est top. Ouais.
Mais Teams, tu peux le prendre aussi en équipe et ça marche super bien.
D'accord. Je ne connaissais pas.
À essayer. Vraiment. Et maintenant, tu peux utiliser Teams en dehors d'un compte ou association ou pro ou éducation. Tu peux utiliser Teams avec un compte Microsoft ordinaire. Gratuit.
Très bien. Seb, tu as encore des questions là-dessus sur le.
Non, je crois que j'ai fait sur le côté.
Ouais. Sur tu as parlé brièvement de ton autre site qui est Bande École, c'est ça ?
Ouais.
Tout à fait. Ouais. Donc c'est un site où tu es seul dessus, ça ?
Je suis tout seul dessus. Si tu veux, il y a eu un moment où j'en avais un peu marre. Il y avait des soucis justement avec la mairie, tout ça, des élèves difficiles, des orientations problématiques. Et j'avais besoin de me forcer à faire quelque chose de mieux. Je me suis dit finalement, si je fais quelque chose et pour mes élèves et que je mets aussi en partage vis-à-vis de la communauté des collègues, ben, ça fait... Ça te met un coup de pied au cul, tout simplement, pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus poussé, un peu mieux. Puis voilà, se donner une dynamique, de se donner aussi un but. Parce que des fois, ben, les enfants, tu fais un truc, ça marche pas. Puis d'avoir le retour des collègues aussi. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de retours. Je sais que les commentaires sur les articles des sites, des blogs de profs, c'est pas forcément toujours très prolixe. Mais voilà, quand il y a un commentaire, même, ben voilà, ta séance, elle me plaît, elle m'a vachement intéressé, ça m'a servi pour tel truc, ou, ah ben attends, voilà, là, t'as fait un petit truc, peut-être tu pourras arranger ça, moi, ça m'a posé problème. Voilà, c'est le genre de petits commentaires que j'aime bien avoir. Et puis, donc, au début, j'ai mis beaucoup de ressources, des séquences, et puis, bon, quelques tutos aussi, bon, pas mal de tutos liés à l'univers Microsoft aussi, l'utilisation de OneNote, l'utilisation, qu'est-ce que j'ai mis, des petits tutos pour utiliser des plugins sur WordPress, par exemple, si on utilise WordPress avec un bloc de classe, des trucs comme ça. J'avoue, ces temps-ci, j'ai pas trop de temps pour en mettre, les dernières publications sont assez anciennes, elles doivent avoir 6-8 mois, quelque chose comme ça, j'ai plein de trucs en attente, mais faudrait des journées de 36 heures, et malheureusement, elles en font que 24, donc... Des fois, on a besoin un peu de couper aussi. Des fois, reprendre une manette de jeu vidéo, jouer avec ses enfants, aller courir, aller prendre quelques photos, ça fait plaisir. On se vide la tête. Quoi. L'école, c'est bien, c'est un super truc, mais des fois, faut aller ailleurs. Quoi.
Eh ben, c'est une très bonne transition, ça, non ? Seb, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, c'est ça. On voit le professionnel.
Pour passer à notre rubrique, pour changer un petit peu de l'école, pour notre rubrique, pour parler d'autre chose, je crois que tu avais quelque chose, Guillaume ?
Alors, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses. Ouais, il y a plein de trucs. Je vous ai parlé de Lifestyle, qui est une association qui parle de l'univers. À la base, c'est un podcast sur l'univers de Windows Phone. C'était les téléphones de Microsoft. Bah, il n'y en a plus. Pour ceux qui sont là. Mon Lumia 1520 que j'ai repris. Alors, j'ai eu un Lumia 950 XL qui me fait chier. Qui sert d'ordinateur de classe, d'ailleurs. Si. C'est bien parce que c'est un téléphone qui se branche. Tu mets un clavier, une souris, tu le branches sur ton moniteur, ça sert d'ordinateur. Très bien. Mais sinon, il plante, il reboot quand tu... Bref. Voilà. Donc, chez Lifetime, on parlait de l'actualité Microsoft et ces temps-ci, l'actualité Microsoft pour les gens, pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y en a plus quasiment. C'est la misère. On s'est dit, tiens, on va changer un petit peu. On va s'ouvrir à l'écosystème Android, oui. Bon, on a encore tous une ancienneté sur Android assez petite. Donc, bon, on se sent pas encore légitime pour trop parler de ça. Mais on s'est ouvert au tuto vidéo sur les outils Microsoft. Donc, ça peut être très bien comment changer son espace de stockage OneDrive par défaut. OneDrive, aussi très bon outil pour synchroniser vos données et puis les garder. Je conseille aux professeurs des écoles ou aux profs de collège et lycée de penser à faire une sauvegarde. Alors, sur le cloud ou ailleurs, mais pensez à sauvegarder. Et puis, le cloud, c'est bien quand vous avez oublié votre clé USB. Oh, moi, j'ai des collègues, je leur ai fait une formation OneDrive et ils sont contents maintenant d'être passés à OneDrive quand ils arrivent à l'école, qui disent « Merde, j'ai oublié ma clé USB. Allez, hop, OneDrive. » Voilà. Donc, on vous fait plein de tutos. Et puis, depuis quelques semaines, on a lancé la M-Story. La M-Story, on retrace l'histoire de Microsoft dans le monde de l'informatique. Vraiment sur le côté regard de gens qui aiment l'informatique au sens large et qui se focalisent plus ou moins sur le monde de Microsoft. Mais on est reparti des années 50 avec les premiers ordinateurs, le tube à vide. Et là, on arrive petit à petit dans l'histoire de Microsoft au début du MS-DOS. Donc là, je suis en train de finir de monter l'épisode 2. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous tapez Lifestyle Podcast et vous tombez là-dessus. Voilà, donc c'est un petit peu de pub, mais voilà, le petit côté histoire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai deux passionnés avec moi. Qui anime ça, Florian et Christophe. Et voilà, donc je pense que vous pouvez découvrir ça, peut-être accrocher à ce côté histoire. Il y a quelques petites anecdotes sympas aussi. Et je vous invite à découvrir et puis à aller essayer. Puis nous laisser un petit commentaire pour vous dire si vous avez aimé ou pas. Voilà.
Eh ben, très bien. Bon, tu nous as fait parler d'autre chose et tu nous as fait même la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Bon, alors plein d'endroits.
Donc, le plus simple, si on veut en savoir un peu plus, Guillaume?
Le plus simple, vous allez sur Twitter, vous tapez IRSLO, IRSLO, et puis vous tombez sur mon compte, alors perso, plutôt orienté tech. Et puis sinon, si vous tapez IRSLO sur Internet, je pense que vous allez tomber sur moi, toujours IRSLO. Sinon, tu as parlé de bande d'école, on a parlé de Lifestyle, bandécole.fr, lifestyle.fr, et youtube.lifestyle.fr aussi, ça marche. Et voilà, pour les parties vidéo. Voilà. Et puis, dans quelques épisodes aussi de Agito, aussi, où j'ai eu la chance...
C'est t'ai connu, hein, c'est sur Agito, oui. Tu vois.
Oui. Je me souviens.
On fait un petit bonjour à Sébastien.
Ouais.
Seb, tu veux conclure?
On va remercier Guillaume d'être venu ce soir en tant que collègue à double titre.
Merci. Ce fut un plaisir d'être invité ce soir.
Plaisir.
Merci à toi.
Et pour te retrouver, Jeff, comment?
Moi, le plus simple, en tout cas, si c'est moi perso, c'est @jeff8342. Seb?
Moi, c'est toujours sur Twitter avec @tuteur, STUTEUR. On a un compte Twitter, @.
Oui, je vais tout. Vas-y. Voilà, Teachers FR,
notre page Facebook. Mais n'oubliez pas de mettre des retours et des commentaires. On ne les lira pas.
Mais... si, vous les lirez, mais en retard.
et sur iTunes aussi, beaucoup de commentaires, ce serait bien.
iTunes, des commentaires, des 5 étoiles.
Allez, surtout que c'est compliqué pour les lire iTunes, donc chaque fois, il faut l'ouvrir et tout.
Voilà, il faut l'avoir surtout.
Je l'ouvre que pour ça, je le garde juste pour les commentaires du podcast. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à vous.
Ciao.